Hey, t'es sûr que c'est le bon bouton ?
Galéjade.
Quoi ?
Galéjade. Sur Radio Alpa, avec Geoffrey.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Galéjade, émission culturelle mais surtout culturiste ici sur Radio Alpa 107.3 Le Mans. Ce soir est une émission enregistrée que je vais vous diffuser. Une émission enregistrée car c'est une interview que j'ai réalisée en début de saison lorsque j'ai eu la chance de rencontrer Eleonor Coste. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Eleonor Coste, je vous invite à donc taper son nom sur internet. Et pour ceux qui la connaissent, vous allez entendre une petite interview que j'ai fait d'elle. On a parlé d'un petit peu toute sa carrière, notamment sa dernière série Bouchon qui est diffusée sur Arte, mais aussi de ses anciens et anciennes œuvres, notamment une œuvre qui s'appelle Fantasme, dont on parlera plus en détail en fin d'émission. Mais avant de démarrer, on va écouter le premier son et je vous retrouve juste après.
Maybe
en compagnie d'Eleonore Coste, actrice, réalisatrice, scénariste pour le web, série télé et bande dessinée. On se retrouve dans un petit café à Bellem, donc c'est une interview en extérieur.
Ouais.
On va reprendre ton parcours, enfin depuis que moi je t'ai découvert, parce que je pense qu'il y a des choses avant, notamment le journal de Lolo.
Ah ouais.
Que moi là par contre je ne connais pas.
Ah oui, quand même, t'es pas...
Non, moi je te découvre avec Le Visiteur du Futur.
Ah bah c'est la même période. Hein.
C'est vrai? D'accord, ça, tu vois, j'en étais pas sûr. Mmh. Et je voulais savoir comment t'es arrivée dans cette aventure qu'est Le Visiteur du Futur.
Bah grâce au journal de Lolo en fait.
D'accord.
Ouais, parce que je faisais cette web-série toute seule. Et en fait, un jour, il y a Florent Dorin qui était un de mes très bons amis au cours Florent.
D'accord.
Qui parle de moi à François Descraques en lui disant, ben voilà, moi j'ai une pote qui fait cette web-série, tu devrais regarder. François m'écrit un rôle dans un court-métrage à la con là, qui s'appelait Star League, mais on s'était fait, où je joue une joueuse de StarCraft.
D'accord.
Joueuse professionnelle de StarCraft. Et puis en fait, on se rencontre comme ça, et après François m'a écrit le rôle de Sarah Lombardi dans Visiteur.
Et Sarah Lombardi, personnage sans doute emblématique de la série, parce que moi j'ai souvenir de vos passages à la Japan Expo.
Ouais.
Ou est-ce que quand vous arriviez, vous étiez un petit peu les vedettes du salon?
Ouais, c'était flippant ça.
C'est vrai?
Ouais.
Cette période-là, justement, toi, tu l'as vécu comment?
Mais c'était bizarre parce que moi, à l'époque, je gagnais pas du tout ma vie avec ce boulot. Du coup, j'étais hôtesse d'accueil le matin.
Ok.
Du coup, c'était très étonnant d'être hôtesse d'accueil le matin et l'après-midi, de sortir de ton anonymat et d'arriver à la Japan où tout le monde te connaît, où tu signes des autographes. Et c'était très paradoxal quoi, par rapport à ma vie de tous les jours. Donc, mais je l'ai pas très bien vécu à l'époque parce que j'étais pas...
T'étais pas préparée à ça?
Non, c'est pas ça, c'est que j'en avais marre d'être hôtesse d'accueil, j'en avais marre de... En fait, pour moi, ça marchait pas ce boulot, quoi.
Ok.
Donc c'était dur, c'était une période super dure. Ça a duré 11 ans quand même de...
De bah, petit travail
ouais,
à côté de...
Avant que mon boulot ça marche, ouais, ça a bien mis 11 ans. Okay. Après, j'ai arrêté jeune, hein, j'ai commencé à 16 ans à faire tout ça, j'ai arrêté le lycée et tout...
Oui,
donc ça a marché, j'ai commencé ouais, à 27 ans en fait, à vraiment arrêter les boulots alimentaires et à gagner ma vie.
Ok, donc c'est, ouais, ça fait une
donc
dizaine d'années.
Donc ça fait 10 ans, ouais.
Ouais, d'accord.
11 ans.
Là, c'est plutôt... Bah, c'est vrai que j'ai tendance à oublier que le temps passe.
Ça fait... Ouais, c'est... Putain, c'est... Enfin, de se dire que j'ai déjà...
T'as enchaîné derrière dans le collectif Le Golden Moustache.
Oui.
Là, c'était plus la télévision qui voulait investir sur les jeunes talents du web.
Ouais. M6.
C'était le groupe M6.
Ouais.
Je sais qu'en face, il y avait donc
Canal,
le studio Beagle avec le Canal. Et là, vous retrouvez pionnier sur le web avec les mains libres pour faire un petit peu ce que vous voulez. Vous aviez justement une carte. Il vous disait dans quoi vous bossiez ou vous aviez les mains libres?
Bah, mains libres, oui, c'est quand même une structure. Il y avait des exigences. Il y avait quand même un directeur d'écriture qui a été, ça a été Vladimir Rodionov pendant longtemps. Ensuite Adrien Méniel. Enfin, on faisait pas tout ce qu'on voulait.
Ouais.
C'était quand même cadré. Hein. C'est quand on écrivait quelque chose, ensuite c'était soumis à des réunions où on brainstormait tous ensemble jusqu'à validation, ensuite tournage. Enfin. C'était pas non plus... Je sais que ça avait l'air de ça de l'extérieur, mais c'était quand même, pour le coup, un vrai travail avec des décisionnaires. Je veux dire, de toute façon, on n'est jamais seul décisionnaire. C'était plus facile, évidemment, qu'aujourd'hui, quand on est dans un circuit classique pour vendre une série. Mais bon, c'était quand même soumis à d'autres regards, on va dire.
Mais justement, est-ce que quand même, ces regards-là, ils vous laissaient quand même faire librement dans le sens... Si vous respectiez la charte qu'ils vous avaient imposée, ils vous laissaient libre, ou derrière, il y avait quand même la relecture en vous disant non, ça on veut pas voir ça, ça on veut pas voir ça.
Ah non, par contre, on n'était pas censuré, c'est ça que tu veux dire.
Ouais, voilà.
Non, jamais. Non, justement, c'est ça qui était génial aussi à l'époque et sur le web, c'est qu'on disait tout ce qu'on voulait. Tous les sujets pouvaient être abordés.
Bah, de toute façon, on voit certains des sketchs que tu as fait à l'époque. Je sais pas si aujourd'hui, ils les referaient sur le web.
Ah ouais, genre lequel?
Bah, je pense par exemple Le Pay.
Ouais.
Avec Nicolas Bernaud,
ouais.
Je sais pas si aujourd'hui il y aurait quelqu'un qui proposerait un sketch comme celui-ci.
Ah, bah parce qu'il y a moins dans mon sketch, moins d'argent, tu vois, mais pourquoi pas.
Et toi, YouTube, c'est quelque chose auquel tu restes attaché ou tu t'en détaches
plus? En fait, moi j'ai jamais été attachée à YouTube, c'est ce que je dis tout le temps, c'est que moi je m'en fous du support sur lequel je travaille, ce que je veux c'est juste avoir un support sur lequel diffuser les choses que j'écris. Et il se trouve que ça a été YouTube pendant des années, mais que si c'est autre chose, je... Moi, en tout cas, moi, je regarde pas YouTube.
Ok. Ouais. D'accord.
Là, j'ai regardé d'ailleurs avant-hier, parce que je sais pas, je me suis laissé prendre par des home tours j'ai pas du tout, c'est marrant, c'est pas du tout dans mes habitudes de me dire que je vais regarder une vidéo sur YouTube. Quoi.
Ah ouais?
Ouais. Mais en fait, il y a trop de séries, il y a trop de films, il y a trop de livres. Du coup, YouTube, il y a. Si, à l'époque, j'adorais Key & Peele, mais tout ça, en fait, il n'y a plus trop de sketchs, c'était ça qui me faisait marrer à l'époque. Et...
Ok.
Donc, ouais, c'est marrant, c'est... alors que j'ai tellement bossé sur YouTube, bah, moi, je regardais pas.
Et même les sketchs de. Enfin, tes anciens partenaires de jeu
ah bah
de
si, bah on regardait bien sûr, ça, on se soutenait. Mais...
Parce qu'aujourd'hui, vous avez tous pris des chemins, enfin, quand même, tous vers la télé, le cinéma. Très peu sont restés sur YouTube. Tu regardes pas du tout ce qu'ils font encore aujourd'hui.
Il y a Lucien qui est resté sur YouTube avec La Bonne Auberge.
Ouais.
Ouais.
Et sur Twitch aussi.
Ouais. Mais alors ça, moi je.
Ouais.
Mais Lucien, il le sait, hein, c'est que moi les jeux de société, je déteste. Donc,
ah, puis c'est un jeu drôle, ouais. Là,
ah oui, et en plus, c'est un jeu drôle. Et il m'a invité une fois sur une émission, c'était pas La Bonne Auberge, c'était un autre truc. Et ouais, voilà, tous les deux, on a rigolé en se disant, on va pas recommencer. Mais je soutiens quand même si je regarde pas, dès qu'on peut partager quelque chose.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Et derrière, tu commences à faire des projets, alors que moi je trouve qui te représentent plus personnellement, à savoir je l'ai noté parce que j'ai toujours peur de dire une bêtise, les Topo de Lolo, non?
Ah oui, mais ça, il y a longtemps aussi.
Jean Rumen, ouais. Pardon. Où est-ce que là, on est vraiment sur de la tranche de vie c'est la partie où tu commences à te dévoiler plus que dans les sketchs ou pas du tout?
Bah, c'est-à-dire que à ce moment-là, moi, je suis plus chez Golden Moustache.
Ouais.
Et là, justement, j'ai la liberté totale de faire ce que je veux et de me faire confiance. Ou chez Golden, je me souviens que le premier sketch que j'ai sorti, il s'appelait Sous-titre-moi. Et il n'était pas hilarant, il était un peu plus comédie romantique, dramatique. Et on m'avait dit, ça marchera jamais, il faut faire des trucs très très drôles. Et en fait, ça a hyper bien marché. Et en sortant de Golden, je me suis dit, bah, je vais me faire un peu plus confiance. Je vais faire des trucs qui me parlent vraiment et qui me... Mais j'ai mis vachement de temps à me trouver. Avant, j'ai fait les Topos de Lolo.
Ouais.
En fait, j'ai mis vachement de temps à me dire, bah, écris exactement ce que tu es et ce que tu as envie d'écrire et sans réfléchir à un plan.
Ouais.
Et en fait, je crois qu'avant, je réfléchissais toujours à, oui, il faut que ça marche. J'avais toujours ce truc en tête. Et quand j'ai commencé à faire Jean Rumen, je l'ai fait vraiment pour moi en me disant, vas-y, je fais un plan séquence, limite fixe, et comme ça me demande aucun moyen, ça me demande pas beaucoup d'argent. Au final, ça m'a demandé énormément d'argent. Mais moi, je peux le faire toute seule et je peux me concentrer sur ce qui m'intéresse et la raison pour laquelle j'ai arrêté le lycée, c'est-à-dire les dialogues et le jeu.
D'accord.
Et c'est ça qui m'intéresse en fait, c'est ce qui est dit, c'est le fond et le jeu.
Ça me fait penser à ce que Florent Bernard avait dit. En parlant d'un sketch qu'il avait écrit qui était pareil, dans le même genre.
Ouais, mais Flo, on était un peu pareil, lui et moi. Il était sur un genre très sensible,
ouais.
Sans forcément des blagues à tout bout de champ, et lui aussi, c'est...
Et justement, il disait que quand il a fait ce sketch-là, à Golden, on lui a dit à l'époque que ça ne fonctionnerait pas.
Je m'en souviens très bien de ce sketch.
Et c'est l'un des sketchs qui
a le plus marché.
Ouais. Sur le moment où on vous laisse aussi... Je sais pas si c'est le public qui sent plus de sincérité ou si vous, automatiquement, comme ça vous parle plus, il y a quelque chose qui se produit, mais ça se sent à l'écran aussi, automatiquement.
Oui, mais ça se sent si, à partir du moment où t'écris quelque chose qui te tient à cœur, ça se sent. Ou c'est pas édulcoré, ou il n'y a pas tout ce truc qu'il y a parfois sur des trucs très commerciaux, ou voilà. Je pense que ça se sent, les gens, ça leur parle à partir du moment où ça te parle, en fait.
On est d'accord sur ça.
C'était pas le projet. J'ai essayé de parler plein de fois, mais tu m'écoutes pas, tu m'écoutes pas. Tu t'écoutes, toi, tu t'écoutes. Et t'as souvent raison, parce que t'es génial. Tu t'écoutes, toi, tu t'écoutes. Mais sans m'écouter, c'était sûr que ça finirait mal. C'est pas non plus que ta faute. Les torts sont partagés. J'aurais pas dû t'en m'engager. Faire ses promesses avant d'agir. Tu vas être triste parce que je te quitte. Et on est triste quand on est quitté. C'est c'est pas que la fin de l'histoire qui rend triste, c'est de savoir que l'on n'est plus aimé. J'ai pas l'air mais je suis dévasté, j'ai pas l'air mais je suis mal aussi, mais ça fait plus d'une semaine que je le sais, et que j'ai intégré que c'était fini. Qu'est-ce que j'ai peur si la flamme est partie? On choisit pas d'aimer, c'est dans la chair, toujours quand on quitte, on trahit, mais l'amour c'est pas de l'humanitaire.
Radio Alpa. Tu l'écoutes pas, écoute-la.
C'était donc Ben Mazué avec Yoa pour le titre Rupture. Vous êtes dans Galéjade sur Radio Alpa. Et nous allons enchaîner avec la deuxième partie de l'interview d'Eléonore Coste.
Genre humaine, tu as tourné avec Marion Seclin.
Si ouais, le premier épisode.
Que le premier épisode?
Non, et elle était aussi sur la saison 2. Ouais,
ouais, deux épisodes. J'avais le souvenir. Mm. C'est, pour toi, c'était quelque chose d'important de tourner avec des gens que tu connaissais?
Oui, toujours. C'est hyper important pour moi d'avoir ma famille dans ce milieu.
D'ailleurs, l'acteur qui jouait ton papa dans cette série-là...
Arnaud, ouais.
C'est aussi lui qui joue dans Bouchon.
Ouais, j'ai repris tout le même casting, en fait.
D'accord. Ouais. J'ai pas fait attention au reste du casting, mais...
Bah, c'est tous les mêmes, sauf les nouveaux, c'était Sébastien et Nicolas. Parce que il n'y avait pas... Voilà, mais j'ai pris toute la même famille, en tout cas.
Comment tu passes de la web-série à une série pour Arte? Quand il te propose de faire ta série, il te laisse totalement libre, ou il t'impose aussi un petit peu des petites choses, pas tant sur la trame, mais sur la forme, sur dire attention, il faut que tu fasses plus attention à
ça. Mais en fait, ça, à partir du moment où tu signes avec une plateforme, une télé, où là c'était Arte, ça n'existe pas le fais ce que tu veux.
Ah ouais?
Enfin, ça, il faut le savoir, ça n'existe pas. Mais même personne ne fait ce qu'il veut. Parce qu'il y a trop d'argent en jeu et parce que t'es obligé d'être cadré, t'arrives pas avec un... Le seul, je crois, un des rares en France, c'est Clapiche, qui écrit trois lignes, et sur trois lignes, on le produit.
Ah ouais?
Mais je veux dire, sinon, t'es toujours... de toute façon, à partir du moment où il y a un diffuseur, il y a des attentes. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que Arte avait vu Genre Humaine, ils aimaient beaucoup, et ils avaient hyper envie d'avoir une série avec cette identité-là.
D'accord.
Mais ça a mis beaucoup de temps parce que je leur ai proposé une histoire qui n'a pas été validée.
Ah ouais?
Donc j'ai retravaillé notre histoire. Je crois que ça n'a pas été validé. J'ai retravaillé notre histoire. Là, ils m'ont dit ok, on teste. Tu signes un premier contrat où tu testes, où tu développes, donc ce qu'on appelle les contrats de développement, quoi, où tu développes plus. Et ensuite, c'est soumis à des commissions.
Ah ouais.
Où tu passes par des commissions, ensuite ça doit être validé par l'Allemagne, parce que Arte c'est...
Aussi,
voilà. Je veux dire, tu passes par énormément d'étapes, donc ça a duré 4 ans, et en fait, durant ces 4 ans, tu valides chaque étape, et évidemment que Oui, je me sens très libre parce que Arte, c'est un diffuseur où en fait j'étais toujours hyper d'accord avec leur retour. Mais de toute façon, c'est pas bien d'être complètement libre. Enfin,
ouais.
Je pense qu'il faut, en tant que scénariste et réalisateur d'ailleurs, il faut accepter un accompagnement et des. Enfin, je pense que l'intelligence dans ce métier, c'est d'accepter que ce soit le régisseur qui apporte ton café ou le producteur te dise à un moment: ah, ça.
Ça marche pas.
Bah ouais, et okay. Ça. Tu vois, c'est. Y a, en fait, quand une série, un film, c'est quand même le travail de plein de personnes. Hein.
Et
c'est qu'un nom qui ressort, mais c'est plein de personnes.
Ouais,
hein.
Parce que vous êtes toute une équipe, mais t'as dit 4 ans de travail au total.
Ouais.
Y a pas un épuisement à un moment?
Ah si, ouais, carrément. Ah bah t'en peux plus au bout d'un moment. T'en peux plus, tu te dis, bah ça marchera jamais. Et c'est ça, hein, je crois, le plus dur dans notre métier, c'est sans cesse de se renouveler, de se remettre en question. Et puis de travailler, en fait. C'est du travail. Hein.
Et c'est l'un des trucs que je trouve le plus compliqué dans votre métier, c'est que vous allez passer des années à faire quelque chose pour être jugé.
Oui, c'est vrai.
Sur de l'instantané, quoi.
Ouais.
Et ça, c'est le. Enfin, n'importe quoi.
Ouais, critiquer et puis ensuite oublier, hein, très vite. Et
sur YouTube, t'as sorti 2 courts ou moyens métrages, ça dépend comment on les appelle. Enfin, peut-être plus même, je sais.
Fantasme, c'est un moyen, et hippocampe.
Ouais, c'est ça, c'est de là. D'accord. Ouais. C'est quoi la différence justement entre un court et un moyen métrage?
Oh, bah, c'est tout simple, c'est la durée. Le moyen métrage, c'est à partir de 40 minutes, c'est considéré
d'accord.
comme. Ou même 50 minutes, j'ai un doute. Et le court métrage, c'est en dessous de 40 ou 50 minutes, c'est du court.
Et donc, Fantasme, c'est le premier projet où tu ne tiens pas le rôle principal en tant qu'actrice.
Ouais.
Tu es derrière la caméra. On te voit au début.
Ah oui,
dans une
c'est
scène.
Vrai, ouais.
Pour moi, c'est le moyen métrage que j'ai partagé le plus à mes amis. Et ça, je te l'avais dit la dernière fois que je t'ai vu. C'est vraiment quelque chose, moi, qui m'a parlé parce que je le trouve très juste. Enfin, c'est difficile de mettre les bons mots, mais il y a une poésie qui se dégage de cette relation entre les deux personnes qui ne tombe pas dans le côté pâté, qui pourrait très vite venir et qui n'est pas non plus pris à la légère. Et comment t'as créé ce court-métrage? Comment t'as eu l'idée de ça, de fantasme?
Parce que j'avais mon fantasme. Et j'avais envie de raconter, après des années, ce que ça me faisait, quoi.
D'accord.
Et puis, ouais, je voulais imaginer ce que ça ferait si on se revoyait, si, voilà.
Okay.
Donc j'avais envie de parler de mon expérience, en tout cas, avec ce mec-là.
Ok.
Avec ce mec, et parce qu'on a tous des fantasmes, des histoires qui... En fait, j'étais assez obsédée par les histoires qui se font pas. Et j'avais très envie de parler de ça, de toutes ces histoires où on passe à côté, quoi.
D'accord. Derrière, t'as enchaîné avec Hippocampe. Et là, par contre, t'as fait une campagne de crowdfunding.
Ouais, première fois.
Verdict, qu'est-ce que t'en as pensé de faire
ça? Incroyable.
C'est vrai?
Incroyable, mais je le referai jamais. Enfin, disons que là, j'avais voulu produire, réaliser, jouer, écrire... Mmh. Et ça m'a épuisée. Mais vraiment, le fait de devoir gérer l'argent, déjà, c'est pas possible, en fait. C'est un métier.
Ah ouais?
Et d'ailleurs, j'ai perdu énormément d'argent avec ce projet. Parce que j'ai pas...
C'est l'estimation de départ qui n'était pas la bonne?
Non, c'est qu'il y a eu plein de dépenses. Je voulais offrir aux gens des goodies. Et en fait, ça m'a coûté une fortune de faire les scénarios. La projection m'a coûté... Enfin, tout... et puis c'est vrai qu'on était sur une équipe un peu débutante en termes de prod, donc on a fait plein d'erreurs, mais c'est normal.
Ouais.
On avait plein d'erreurs, mais c'était génial, hein, mais je le referais pas. Enfin, je reproduirais pas.
D'accord.
Voilà.
Mais ça t'a permis de découvrir un nouveau métier.
Ouais, voilà, et je me suis dit, c'est pas mon métier.
Ouais. Actuellement, t'as une bande dessinée qui vient de sortir.
Ouais.
Qui s'appelle Pauvre Meuf. Est-ce que tu peux la présenter, cette BD?
Est-ce que je peux la présenter? Eh bien, écoute, Pauvre Meuf, c'est l'histoire de la trajectoire d'une femme dont la vie est régie, finalement, par les hommes, en fait. Qui est, à chaque étape de sa vie, un peu plus écrasée par les hommes. Et ça parle de la façon dont on s'en sort, quand même, toujours. Et voilà, c'est une BD qui parle pas mal aux femmes, d'ailleurs.
T'as déjà des retours dessus?
Ouais, j'ai quelques retours et c'est vrai qu'à chaque fois, je m'en doutais malheureusement un peu, hein, mais je reçois beaucoup de « Ah bah, j'ai vécu pareil, je me retrouve vachement dans ton histoire. »
Parce que oui, pour l'avoir lu aussi,
C'est... Tu te dis, ah, t'as c'est... pas forcément envie que...
Ouais, voilà, c'est pas la première réponse ouais. que tu t'attends à avoir de tout le monde, quoi.
Ouais.
Mais c'est une très belle bande dessinée, et donc t'as collaboré avec Aria.
Aria, ouais.
Comment vous vous êtes rencontrés, comment vous êtes arrivés sur le projet toutes les deux?
Eh bah, ben, c'est l'éditeur Delcourt, on cherchait ce projet, il a mis... je l'ai écrit en 2018, ça sort en 2024. On a mis énormément de temps à trouver une dessinatrice.
Parce que 2018, il y avait ta précédente BD qui sortait
ouais.
à ce moment-là.
Bah, en fait, je sors ma précédente BD en 2018 et dans la foulée, je commence à écrire celle-ci.
Ok.
Et avec l'aide de Davy Mourier, qui voulait absolument que j'en fasse une deuxième, enfin qui m'a vachement soutenue. Et donc le temps de trouver la dessinatrice, c'est Delcourt qui m'a proposé plein de profils, et quand ils m'ont envoyé les planches d'Aria, j'ai dit ah ouais, mais ça j'adore. Okay. Parce que le côté Aria elle a un trait très très enfantin, très doux, qui vient vraiment contraster avec le propos qui est hyper dur.
C'est le premier truc que je me suis dit quand j'ai lu la BD. Je fais entre le style graphique et l'histoire.
Ouais, il y a un monde.
Il y a vraiment ouais.
Mais ça m'intéresse vachement.
Et c'est, pour toi, c'est important justement que le dessin soit beaucoup plus doux, plus accueillant que l'histoire, enfin, que la dureté du scénario.
Mais oui, parce que sinon, c'est trop dur. Mais c'est comme Bouchon. Dans Bouchon, c'est un sujet très dur, mais il y a plein de blagues.
Oui.
Et c'est exactement le même procédé, en fait. C'est ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est de traiter des sujets très graves avec légèreté.
Ok.
Et ça, c'est vraiment ce que je kiffe faire.
Derrière, j'ai entendu dans un floodcast, si je dis pas de bêtises, que tu avais un projet de long métrage.
Ouais.
Est-ce que tu peux en parler un petit peu ou pas du tout
Je peux dire que oui, que c'est avec Quad, que ce sera mon premier film au cinéma, et que ça parle de musique, d'adolescence et de deuil.
D'accord. Voilà. Voilà les questions que j'avais pour toi, Éléonore. Je te remercie.
Ouais, bien merci à toi.
Il y a une dernière question que je pose à tous mes invités. Après cette interview, je vais passer une chanson, et c'est une chanson que tu vas choisir. Donc là, ça va couper. Ouais. Mais si tu peux me dire une chanson que tu aimerais que je diffuse derrière, je la mettrai juste après.
Ouais, ok.
Je te remercie.
Merci à toi.
De retour dans Galéjade sur Radio Alpa 107.3 Le Mans. Vous venez d'entendre donc Alésis de McGee. Si j'espère que je ne me trompe pas, c'est ce que Eleanor voulait comme son après son interview. Dans le studio, je retrouve donc Charlotte pour cette partie de l'émission. Comment ça va, Charlotte ?
Ça va bien.
Tout va bien ?
Ouais.
Donc, quand je t'ai parlé d'Eleanor, je t'ai demandé si tu avais vu un de ses films, un de ses moyens-métrages. Et je pense que depuis, tu l'as vu. Et oui. Je t'ai demandé s'il y avait possibilité de faire une chronique, peut-être en te basant dessus ou sur totalement autre chose, je ne sais pas. Je vais découvrir ce soir.
C'est la découverte, attention. Non, mais oui, il y a du lien. Il y a du lien. Disons que le destin a fait que tu m'as contacté au moment où... j'étais inspirée pour me remettre dans un truc et du coup j'ai fait quelques liens. Donc
c'est à toi.
OK. OK guys, c'est le retour de Chaduc en chronique. Si tu ne te rappelles pas de moi, c'est totalement normal puisqu'on est sur un rythme. La meuf ose prononcer le mot rythme alors que c'est sa deuxième intervention en l'espace d'exactement 462 jours. Oui, j'ai calculé de tête à l'instant. Ce qui équivaut à peu près au nombre de jours où j'allais pas trop mal, en vrai. Et franchement, moi, je trouve que c'est assez honnête. C'est suffisamment espacé pour vous laisser le temps de digérer la première chronique. Et moi, ça m'a permis d'expérimenter les méandres de la vie. Genre, totalement au pif, les applis de rencontre. D'ailleurs, j'ai fait une grosse étude sociologique. Trop hâte de vous partager ça, mais pour ça, il faudra attendre 462 jours, si ce n'est avant, vu ma stabilité émotionnelle du moment. Hashtag Rodiol Safran, que je prends tous les matins. Ça, c'est pour les vrais. Ceux qui sont dans ma cabane, dans ma forêt, dans la montagne, je suis en paix. Focus, Charlotte, bordel, focus. Mais elle a certainement pris de la drogue. Oui, je crois, oui. Non, si, non. Bon, allez, introduction beaucoup trop longue. Damit, je ferai jamais carrière dans le storytelling efficace. Encore une porte qui se ferme pour moi. Que dis-je ? Une corde moins à mon arc. Alors, bon, j'ai eu le temps de vivre un truc... voire même des trucs, et à un moment de me dire « ça y est, je crois que c'est bon, j'ai fait le tour du bail, maintenant je veux me poser !» Bon, bien évidemment, j'ai fait fuir la moitié de la population masculine au moment où j'ai prononcé ces mots. Il y a eu discussion, négociation des termes du contrat, en mode « non mais vas-y, tu sais quoi ? On est déconstruits de fous, nous, on invente un nouveau concept, tranquille !» Il n'y a pas de lézard. Puis, de me prendre un mur, comme ça. Paf ! Et de revenir ici avec une anecdote de plus, finalement. Hé hé ! Smart girl ! She's so inspiring, like ! Vous avez vu mon bel accent anglais ? Allez. Parce que oui, aujourd'hui, vous l'aurez remarqué, on va parler de ce que j'adore. On va parler des relations. Mais des relations avec un petit dirty twist. Des relations qui n'en sont pas vraiment. Je veux parler des situationships. Ou les presque histoires. Définition pour les boomers ou les personnes en couple depuis trop longtemps avec possiblement des enfants à charge et un chien dans le jardinet qui n'ont aucune idée de ce qui se passe dans notre univers. C'est une relation floue.
Bah mets des lunettes.
Pas très claire cette définition. Où deux personnes passent du temps ensemble, partagent une certaine intimité, mais sans définir clairement leur statut. Je vous vois là, faire la grimace, là, comme Sandrine à la machine à café le lundi matin quand tu lui racontes ton week-end de zinzin et qu'elle se dit « Ce n'est ni une simple amitié, friend zone, ni purement sexuelle,
plan cul,
ni une relation amoureuse engagée. » Oui, bon, bah là, c'est bon, on a l'idée. Souvent par choix ou par peur de s'engager. Là, si vous êtes un petit peu futé, vous comprenez où je veux en venir. Ça peut être fun et léger. On va le répéter, ça peut être fun et léger, mais aussi frustrant si l'un des deux commence à vouloir plus de clarté. Et voilà, finalement, fin de l'histoire. Allez, c'est un peu le genre de situation où ça commence quand ta pote te dit « Ouais, j'ai rencontré quelqu'un, bon, on n'est pas vraiment ensemble, mais un peu quand même, enfin, je sais pas, bon, c'est un peu compliqué. Non, bon. » Et surtout, on va parler du moment où ça se termine. Ou du moins, où ça s'arrête. Parce que dire que ça se termine, ça impliquerait que ça ait vraiment commencé. Et déjà, rien que là, on est perdu.
Mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle encore ? C'est un film de David Lynch ou quoi ? On comprend rien.
Alors voilà. puisqu'on se dit tout, bah c'était fun et léger, jusqu'à temps que je demande plus de clarté. Je me suis retrouvée face à une rupture. Non. Séparation. Non plus. Prise de distance mutuelle qui n'a pas vraiment été discutée. On n'a pas divorcé parce que wow ! Voilà, ça va beaucoup trop loin. On ne s'est pas quitté parce qu'en vrai, on était déjà un peu chacun de notre côté. Alors, bon, ChatGPT, est-ce que je peux dire que c'est une rupture ? Oui, j'écris extrêmement lentement. Alors que je n'ai même pas de photos de couple à supprimer. Franchement, les ruptures classiques, c'est limite plus simple. Enfin, dans les comédies romantiques du moins. Tu pleures, tu manges des glaces, tu regardes La La Land et tu bloques la personne sur Instagram avec un « Satan, va-t'en !» Là, c'est plus complexe. C'est plus diffus, plus flou. Ça reste en deuil, mais sans enterrement. Pratique. Je suis entre l'envie de jouer la meuf forte et indépendante qui rebondit et hop, elle est pour Nicolas, celle-là. Quelle ref. Et la réalité d'un algorithme Insta qui me propose que des réels de meufs en PLS avec une voix off qui dit « S'il est parti, c'est qu'il ne te méritait pas !» avec un fond sonore de Hans Zimmer, genre « Non mais l'angoisse !» Laissez-moi vivre ma déchéance en paix, bordel. Alors c'est assez marrant, mais Geoffrey m'a envoyé un message juste après cette étape de vie en me demandant si j'avais visionné donc le film, le court-métrage Fantasme d'Éléonore. D'ailleurs, on vient tout juste d'en parler. Alors je m'y suis attelée. Il est vrai que je me sentais pas complètement effondrée, mais pas totalement remise non plus, un peu mitigée cochon d'Inde finalement. Dans un entre-deux chelou, où je jongle entre la tentation de tout analyser tout le temps. ChatGPT, meilleur psy en fait, hein, sauf si tu fais de l'éco-anxiété. Et l'envie de juste avancer. Alors j'ai fait des petits parallèles avec le court-métrage et c'est vrai qu'il y a des similitudes. J'en ai trouvé trois. Première similitude, il y a l'idéalisation post-rupture. Je suis dans une période où mon esprit jongle entre souvenirs, réalité, souvenir, réalité, souvenir. Oui, bon, vous avez l'idée. Ou certaines phrases ou émotions ressurgissent de manière un peu plus marquée. Deuxième similitude, la difficulté du détachement. Dans le court-métrage, l'héroïne a du mal à tourner la page, car son imaginaire l'enferme dans un genre de cycle de pensée qui l'empêche d'accepter pleinement sa rupture. Bah ici, c'est un peu la même chose. Et troisième similitude, l'humour et la lucidité comme arme. Ce n'est pas juste un drame sentimental, il joue aussi sur des touches absurdes et décalées. Parce que oui, quoi de mieux que l'ironie et l'autodérision à gogo pour lutter face à sa tristesse? C'est la délulu, mais fun et léger, quoi. Alors je fais quoi aujourd'hui? Je fais semblant que tout va bien? Non, mauvaise idée. Je relis nos messages en cherchant où ça a dérapé? Non, déjà fait environ 44 fois. Je poste une story avec un coucher de soleil et une chanson qui me fait penser à lui. Allez, déjà fait aussi, on va pas faire ça. Ah, c'est une tristesse qui n'a pas de case. Pas de nom. Pas de playlist Spotify intitulée « Best of Not Entirely Breakup Song ». Du coup, vous me voyez venir. J'ai créé ma propre playlist. Évidemment, que des bangers. Je vous invite, vous, les petits millennials au cœur brisé, à la checker. Mais que pour les moins précaires d'entre vous, car elle est sur Deezer. Ah oui, elle est plus précaire, en fait. Elle s'appelle « Ciao les gros nulos » avec une petite poignée de main, parce que, hé, on se sait. Ou alors sinon, je fais comme si c'était juste la vie. Je crois que la seule solution, c'est d'accepter que parfois, certaines histoires finissent sans jamais vraiment commencer. L'essentiel, c'est d'accepter tout ça pour se reconstruire, lentement mais sûrement, comme on dit. Bref. Un jour, un jeune homme m'a dit en Espagne, en anglais. Oui, ça n'a aucun sens. « Prepare to be disappointed ». Eh ben, celle-là, je ne l'avais pas vu venir. À l'époque, je ne comprenais pas trop pourquoi, mais là, aujourd'hui, tout fait sens. Et ensuite, un prêtre m'a dit « Mais Charlotte, le saumon n'arrive qu'après trois sardines ». Et là, c'est pareil, j'ai compris. En fait, j'ai trop bouffé de conserve. En tout cas, s'il y a une morale à tout ça, c'est que les ruptures, c'est un peu comme les randos en montagne. Limite, j'aime bien ce genre d'analogie. Au début, t'as un peu la flemme, t'as un peu mal aux jambes, t'as juste envie de faire demi-tour. Et puis un jour, tu te lèves. Tu lèves la tête, tu regardes autour de toi et tu te rends compte. Oh, what a journey, hein? Allez, ce sera mon mot de la fin. C'était Chaduc en direct de la vallée de la loose sentimentale. Merci d'avoir écouté ma catharsis jusqu'au bout. Je vous dis à dans un an pour la prochaine chronique. Je crois que c'est le rythme, hein. Ou plutôt, si jamais je décide de me mettre sur les applis et de vous faire un best-of des pires bio, par exemple. Bref, on garde le cap, mais pas vers nulle part.
Merci beaucoup, Charlotte, pour cette chronique magnifique.
Avec pleine d'humour. Plaisir.
J'avais coupé mon micro parce que la dernière fois que tu avais fait une chronique, on m'entendait pouffer derrière. Donc je me suis dit, cette fois, je vais pas couper ton moment, qui était très intéressant. Et la quinte de tout, c'est un cadeau. Allez. Ça, c'est moi. Allez. Donc, pour clôturer cette partie, on va écouter un son que tu as choisi qui s'appelle « Lâche-moi la main », c'est d'Iliona. Et on revient juste après.
C'était juste de passage. De toute façon, c'est pas comme si je t'aimais, genre grandiose. J'ai compté toute la journée les insultes que je dirais jamais. Si les gens se montent souvent, je me demande comment t'étais avant moi. Je passe mes nuits à regarder des gens danser sans se manquer. Mais je passe ma vie à réparer mon cœur, mon cœur. Je m'ennuie. Je veux plus écrire sur toi, pas envie de romancer ce qu'on n'est pas. Parfois je me demande ce qu'on gardera de tout ça. Parfois je te mens, ou je te dis tu me manques. Et c'est triste, on se tire par le bras, on se pique, et ça peut pas être un poids.
Ça prendra le temps qu'il faudra. Parfois je me demande.
retour dans Galéjade sur Radio Alpa 107.3. Je suis toujours en compagnie de Charlotte. Nous venons donc d'écouter Lâche-moi la main d'Iliona. Pourquoi ce choix, Charlotte ?
Eh bien, parce qu'il m'a parlé par rapport à la chronique que j'avais écrite juste avant et que je trouve qu'il illustre bien les histoires un peu de rupture. Voilà, pour rester dans le thème avec une petite ambiance un peu sympa, quoi.
Ça marche, merci beaucoup. Et pour faire un petit récap de tout ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant, en début d'émission, donc vous avez entendu le premier titre, c'était le groupe Leaf avec The Light. Pendant l'entretien, vous avez entendu Ben Mazué en featuring avec Yoa, c'était Rupture. Je tiens à remercier encore Nico du café Nima à Belém de nous avoir permis d'enregistrer dans son établissement. Si vous êtes amateur de café de spécialité, ce lieu est fait pour vous, il torréfie son café lui-même. Si vous voulez le goûter sans avoir à faire le déplacement, vous pouvez donc vous rendre au salon de thé librairie chez Chaché Shire, qui se trouve juste devant la cathédrale. Son café est disponible là-bas. Je vais enchaîner avec les recommandations culturelles de fin d'émission. Donc vous allez juste entendre mes recos de culturels, j'en ai deux. La première, c'est donc le nouvel album de Ben Mazué. Justement, je trouve que cet artiste est plutôt un... j'ai envie de dire le mot génie, dans l'exprimation des sentiments en musique. Je le trouve pertinent, et encore une fois avec son nouvel album, il vise parfaitement là où il faut pour moi. Donc son nouvel album s'appelle « Famille ». Ma seconde reco, c'est toujours Ben Mazué, et cette fois c'est sur son podcast qui s'appelle Amour Jungle. Donc en 2021, il a lancé une sorte de courrier du cœur. Pour y répondre, il a créé une émission qui s'appelle donc Amour Jungle, comme je le disais. Il y a une dizaine d'épisodes qui abordent plusieurs thèmes. Chaque épisode contient une chanson écrite en rapport avec le thème. Donc vous l'aurez peut-être compris, ces chansons ont servi... certaines de base pour l'album Famille, d'autres ne sont juste disponibles que dans le podcast. Mais si vous voulez écouter tout ça, bah, je vous laisse sur les applis de podcast pour découvrir Amour Jungle. Et en parlant d'applis de podcast, je vais faire la petite promo de l'émission. Donc si vous voulez me rechercher sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram, c'est galéjade.émission. Sur Facebook, galéjade-émission. Émission, c'est ça. Si vous voulez retrouver Léonore Coste, que vous avez entendu dans tout début d'émission pour son entretien, et Léonore Coste, c'est disponible sur Instagram, Facebook. Ses moyens métrages, on en a parlé il y a 15 jours dans la précédente émission, notamment de Fantasme, donc qui est également disponible sur YouTube, comme sa série Bouchon, qui est disponible sur YouTube et sur Arte. Si vous écoutez le direct, on va vous laisser avec Delphine et Vertige. Si vous écoutez la rediff, on va vous laisser avec Oblique. Et si vous écoutez le podcast, eh bien on va vous laisser avec ce que vous avez envie. C'était donc Galéjade. Merci encore à tous d'avoir écouté et à très vite.
C'est l'heure de...
Mais t'es sûr que c'est le bon bouton ?
Galéjade.
Quoi ?
Galéjade. Sur Radio Alpa. Avec Geoffrey.
On est bien, on est bien.